Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Point d'orgue, votre rendez-vous de musique liturgique. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous allons continuer à rester dans cette thématique que nous avions abordée déjà il y a quelques semaines de la joie pascale. Et je voulais aborder avec vous des répertoires tous plus sublimes les uns que les autres. Et sans perdre un instant supplémentaire, eh bien on va se diriger vers le seigneur des seigneurs de la musique, Jean-Sébastien Bach, avec une œuvre qui est peut-être un petit peu attendue. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser, mais elle est tellement belle que ce serait dommage de s'en passer, l'oratorio de Pâques. Alors naturellement, avec le temps qui m'est imparti, vous le savez, on va être obligé de choisir un extrait. Et d'ailleurs, quand on parle d'oratorio de Pâques, ça peut être offre soumise à condition, comme on dit, parce que cet oratorio est assez court, il dure en fait une quarantaine de minutes, ce qui pourrait faire qu'on pourrait le classer dans le registre des cantates. Néanmoins, il s'agit bien d'un oratorio de Noël, c'est-à-dire une pièce qui a quand même une certaine envergure, qui d'ailleurs se place dans le cycle de composition de Jean-Sébastien Bach des autres oratorios, celui de Noël en particulier, et celui de l'Ascension, qui sont là aussi des pièces absolument majeures du répertoire de Jean-Sébastien Bach. Alors cette œuvre est spéciale à plus d'un titre, alors déjà effectivement par la petitesse de son discours, je vous le disais, 40 minutes, mais également par la façon dont la musique va se faire. Ici, contrairement à d'autres grands morceaux, grands oratorios de Jean-Sébastien Bach, eh bien on ne va pas avoir de narrateur, mais bien quatre personnages qui vont dérouler l'histoire. D'abord, il va y avoir Simon-Pierre, le ténor, Jean, la basse, Marie-Madeleine, qui sera en alto, et Marie de Jacques, qui sera soprano. Donc tous les pupitres sont représentés, et en même temps, c'est comme si on avait tous les personnages de l'évangile qui découvrent le tombeau du Christ, et qui vraiment peuvent témoigner de la résurrection du Seigneur. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire dans cette musique-là, c'est qu'on va voir qui, d'un point de vue musical, l'aspect qui est de la résurrection, de la joie, de l'attente, et en même temps, voilà, de cette communication du témoignage de la résurrection du Seigneur. Alors aujourd'hui, en fait, je voulais vous faire un thème bien précis, alors notamment autour de la joie de Pâques, ça vous l'avez bien compris, mais aussi autour de quelque chose qui est l'instrumentation qui permet de témoigner de cette joie. Et en fait, je me suis dit qu'il y a un instrument dont on ne parlait pas beaucoup, et pourtant il fait partie intégrante de la liturgie au cours des siècles, il s'agit de la trompette. Évidemment, la trompette, vous allez le découvrir, grâce à son éclat, apporte quelque chose de tout à fait spécifique à la musique, et c'est pour ça que je voulais qu'on s'attarde sur cet instrument. Alors, dans l'œuvre de Jean-Sébastien Bach, on retrouve la trompette à de multiples reprises, et en particulier dans l'oratorio de Pâques. Naturellement, en fait, quand il est question de gloire, de majesté, de résurrection et de joie, la trompette prend en fait naturellement sa place. Et ici, naturellement, eh bien vous avez cette cohésion qui se fait autour de cet instrument qui annonce quelque chose d'absolument triomphal. Il ne faut pas oublier que c'est également l'instrument des rois qui annonce quelque chose de tout à fait imposant. Et bien entendu, dès qu'on entend les premières notes d'un oratorio de Bach avec la trompette, eh bien on se dit qu'on est dans une atmosphère de joie. C'est donc particulièrement bien rendu ici, notamment avec l'extrait que je vais vous présenter. Alors, il s'agit du premier extrait où le chœur va entrer en scène. C'est un petit peu particulier parce que cet oratorio, le chœur va mettre pas mal de temps à rentrer, non pas sur le premier morceau. Alors ça arrive régulièrement, d'ailleurs, qu'il y ait une symphonie instrumentale toute seule chez Jean-Sébastien Bach, c'est même quasi systématique. En revanche, en général, le deuxième morceau laisse place au chœur. Et là, non, l'adagio est aussi instrumental, et il faut vraiment qu'il y ait le troisième morceau qui s'installe comme Eilet und Laufet, venez, hâtez-vous, pour que les chœurs se mettent en place et là aussi rejoignent la joie instrumentale que nous avons entendue avant. Et là, vous allez l'entendre, l'aspect festif est non seulement présent par les trompettes, mais également par les percussions, notamment les timbales, vous allez entendre, qui ont un son tout à fait particulier, notamment à cette période-là, puisque ce sont des peaux qui sont tendues. Et de la même manière, les trompettes, qu'on appelle les trompettes naturelles, sont des trompettes qui ont une esthétique tout à fait particulière. Et c'est pour ça que je voulais vous faire entendre un morceau baroque. On aurait pu entendre d'autres choses, notamment, j'ai un peu hésité à vous parler de certains psaumes de David de Heinrich Schütz, compositeur là aussi baroque allemand, qui a écrit de très très belles choses. Mais là, je voulais vraiment qu'on ait cette espèce de joie pascale, et naturellement dans cet oratorio de Pâques que vous connaissez peut-être et qui est une des grandes œuvres. Donc je vous invite à découvrir le troisième morceau de cet oratorio de Noël, troisième morceau sur 11, venez, hâtez-vous, où on témoigne de la résurrection du Christ. Vous allez entendre, les trompettes y jouent leur grand rôle, c'est véritablement la joie pascale. Thank you. extrait de l'oratorio de Bach, de Jean-Sébastien Bach, là aussi une œuvre absolument merveilleuse que je vous invite à découvrir dans son entièreté, et notamment pour ses parties de trompette, parce que la partie de première trompette est particulièrement redoutable. Si vous écoutez tout l'oratorio, elle nécessite un virtuose de premier plan, et en fait, on pense que Jean-Sébastien Bach s'est beaucoup appuyé sur son fameux trompettiste Gottfried Richter, qui était un extraordinaire instrumentiste et qui permettait à Jean-Sébastien Bach de composer des œuvres d'une particulière difficulté. Voilà donc qui remet un petit peu la trompette au centre des débats et, vous l'entendez, qui apporte un véritable plus à la musique sacrée. C'est véritablement quelque chose qui tient toute sa place, et notamment quand il est question de résurrection. Et maintenant, je me suis dit que j'allais prendre le problème d'une autre manière et évoquer la trompette, mais dans un autre instrument. Il s'agit tout simplement de l'orgue. Vous le savez bien, l'orgue a une multitude de registres, de jeux, qui correspondent en fait à des sonorités. Vous savez, je ne sais pas si vous savez comment se comporte un orgue. En fait, vous avez des tirants de registres de part et d'autre de vos claviers. Et chaque registre correspond donc à une sonorité. Et certaines de ces sonorités correspondent à des sons d'orchestre. Vous avez des violoncelles, vous avez des gambes, vous avez des viols de gambes, vous avez beaucoup de choses comme ça. Et vous avez une autre famille qui est la famille des anges. Et là, vous pouvez trouver des hautbois, des clarinettes et en particulier des trompettes. Et ça, je voulais vous le signaler parce que ça fait partie de la pluralité de cet instrument qu'est l'orgue et qui permet à cet instrument de faire valoir toutes les couleurs possibles que l'on peut trouver dans la musique sacrée et dans la liturgie. Et bien entendu, les anges ont un rôle tout à fait particulier à jouer dans la liturgie, vous en rendez bien compte. Et donc, effectivement, quand on va jouer certains morceaux, par exemple un Gloria ou un Sanctus, hein, pour être dans les choses les plus évidentes, la registration de l'organiste va souvent être de multiplier les résonances, soit par un plein jeu, soit par des anges, de sorte à montrer que l'aspect solennel, festif, et que véritablement on souligne la gloire de Dieu. Donc ça, c'est assez important à savoir. Donc je vous fais ce petit passage-là pour qu'on puisse recontextualiser effectivement les jeux d'anges dans les orgues. De la même manière d'ailleurs, un orgue, n'oubliez pas que c'est un instrument à vent, hein, et ça s'active exactement comme une trompette, c'est-à-dire que vous avez une soufflerie qui fait office de la bouche, et ensuite vous avez un tuyau métallique avec une anche qui vibre et qui produit ce son métallique si spécifique. Et donc, il existe chez nos amis organistes une très très grande tradition du jeu d'anges, et en particulier dans le jeu d'anges français. Alors, pourquoi est-ce que je dis en particulier dans le jeu d'anges français ? Alors, je suis un petit peu chauvin, je l'avoue, parce que quand on regarde les orgues espagnols ou portugais, effectivement, là aussi, il y a des batteries d'anges absolument extraordinaires. Mais il est vrai que les anges françaises sont assez spécifiques et diffèrent, de fait, des anges allemandes ou des anges anglaises qui sont un petit peu plus rondes. Les anges françaises, elles, sont un petit peu plus assumées, vous allez l'entendre tout à l'heure. Il y a un côté très brillant qui est apporté à cette sonorité-là et qui nous donne, là aussi, cet aspect totalement festif. Et alors, une tradition des organistes du XVIIe, XVIIIe siècle était de faire véritablement entendre ces jeux d'anges-là. Et alors, naturellement, vous pouvez l'entendre dans tous les Noëls, soit de Daquin, soit de Balbastre, des grands compositeurs qui ont composé de très belles choses pour orgue, mais aussi pour d'autres raisons. Et alors là, on va sortir de la liturgie. Alors, pardon de faire ce petit crochet, mais en même temps, c'est historique. Je voulais évoquer avec vous un morceau, d'ailleurs deux morceaux, de Claude Balbastre. Alors, je vous l'ai cité tout à l'heure, Balbastre, c'était un très très grand organiste. Il est né en 1724 à Dijon et il est mort à Paris en 1799. Grand organiste, claveciniste et compositeur français. Il a notamment été élève du frère de Jean-Philippe Rameau, rien que ça. Et il a débuté sa carrière au concert spirituel. Et il a été notamment, l'un des grands organistes de l'église Saint-Roch à Paris. Il a également été à l'église cathédrale Notre-Dame de Paris et à la chapelle royale, rien que ça. Très belle carrière. Il était tellement extraordinaire comme organiste qu'en fait, pour la petite anecdote, l'archevêque de Paris lui avait fait interdiction de jouer pendant la messe de minuit à cause, citation, de la multitude qui venait entendre l'organiste et qui ne conservait pas le respect dû à la sainteté du lieu. Un grand organiste donc, qui était capable donc avec ses doigts et avec sa virtuosité de faire de très belles choses. Et le morceau que je vais vous proposer d'écouter, il s'agit tout simplement de la Marseillaise. Alors pourquoi est-ce que je vous fais entendre ce morceau dans ce contexte de musique sacrée ? Tout simplement parce qu'à la Révolution française, Eh bien, les organistes, pour sauver leurs instruments, se sont mis à jouer des morceaux patriotiques. Parce que sinon, les tuyaux étaient fondus pour servir d'armes et on perdait des instruments. C'est arrivé sur de grands instruments. Et Claude Balbastre a réussi, en jouant ça à Notre-Dame de Paris, eh bien, à faire vraiment entendre que l'orgue pouvait être un instrument transcendant. Et d'ailleurs, Balbastre a été quelqu'un d'assez fin pour survivre aux affres de la Révolution, parce que c'était quand même quelqu'un qui était tourné vers la cour du roi, et il a eu sa carrière qui a continué jusqu'à la fin, même si effectivement il a eu une fin qui était un petit peu tragique, il est mort seul, et effectivement pas très reconnu. Mais aujourd'hui on reconnaît son génie, et c'est pour ça que je voulais vous faire découvrir cette marche des Marseillais extraordinaire, ici sous les doigts de Michel Chapuis, sur l'orgue, sur lequel a tant joué Balbastre, l'orgue de Saint-Roch à Paris. Écoutez donc cette petite merveille, et c'est suivi d'ailleurs de l'air Ça ira. Vous allez entendre avec la virtuosité due à cette époque-là si caractéristique, et naturellement, les trompettes sont à l'honneur.
Thank you.
La marche des Marseillais et l'air « Ça ira » de Claude Balbastre sous les doigts de Michel Chapuis. Là aussi, vous avez pu entendre la puissance de l'instrumentation des anches françaises, donc de ces trompettes si éclatantes qui, bien entendu, lorsqu'on évoque la Marseillaise, eh bien, ont tout à fait leur sens, avec ce sens un petit peu martial, un petit peu guerrier naturellement, avec les facéties d'ailleurs de Claude Balbastre qui en fait des variations et qui donne cette pièce totalement admirable qui rentre dans le patrimoine et qui ont fait que, grâce à ses compositions, certains orgues historiques ont pu survivre. Et maintenant que vous avez écouté d'une part les trompettes, l'instrument véridique chez Jean-Sébastien Bach, et d'autre part les trompettes de l'orgue, eh bien je vous invite à écouter une synthèse des deux avec la messe Salve Regina de Jean Langlais, immense compositeur né le 15 février 1907 à La Fontenelle et mort le 8 mai 1991 à Paris. C'est un très très grand organiste, improvisateur, pédagogue et compositeur français. Il a été dans la classe d'orgue de Marcel Dupré au Conservatoire de Paris, il a été élève d'improvisation grégorienne avec Charles Tournemire et il a suivi des cours de composition avec Paul Ducasse, donc un très très beau parcours, vous vous en doutez bien, et ça a été un immense organiste. Il est à noter qu'il a succédé à son maître, donc à Sainte-Clotilde à Paris, donc sur les pas des grands organistes comme César Franck et donc Charles Tournemire, et il a été un très grand monsieur, non seulement parce qu'il a été un grand interprète et un grand compositeur, mais en plus parce que c'était un compositeur aveugle. Alors là, on rejoint une tradition qui est assez ancrée dans les... Dans l'imaginaire collectif du musicien, c'est le musicien aveugle, ça remonte d'ailleurs depuis le barde et la haide aveugle dans l'Antiquité, mais il y a une vraie tradition de l'orgue avec l'Institut des Jeunes Aveugles de Paris, qui d'ailleurs a un très bel instrument, et qui a donné de très très grands musiciens, dont Jean Langlais, qui a composé pour Notre-Dame de Paris, où il a d'ailleurs été également organiste, et je voulais donc partager cette messe avec vous, parce que Messe Salve Regina enregistrée à Notre-Dame de Paris, bien entendu le vocable était tout trouvé, vous allez entendre toute la splendeur et toute la magnificence, non seulement de l'orgue de Notre-Dame de Paris, avec ses fameuses chamades, assez agressives, cette batterie d'anges vraiment dense, et de l'autre côté, les trompettes qui, elles aussi, s'ajoutent aux voix. Donc, l'extrait que je vous propose, c'est le Sanctus, donc là aussi quelque chose de très glorieux, et vous allez entendre un Sanctus plein d'archaïsmes qui font comme si on se retrouvait face à une royauté médiévale ou antique qui donne à cette messe un aspect totalement novateur. Vous allez l'entendre. Voici donc le Sanctus de la messe Salve Regina de Jean Langlais.
Oh.
Sanctus de la messe Salve Regina de Jean Langlais, une œuvre extraordinaire dès les premières notes d'ailleurs de la trompette. Vous entendez ce Salve Regina grégorien. Là aussi, la trompette a toute sa place dans cette joie et dans cette exultation du Sanctus. J'espère, mesdames et messieurs, que vous avez passé un beau moment en compagnie de Point d'Orgue. Je vous retrouve la semaine prochaine, mais d'ici là, n'hésitez pas à noter dans vos agendas le 25 mai à 17h à l'église Saint-Exupère à Toulouse. Il y a un concert de la maîtrise de la Scola Cantorum de la Basilique Saint-Sernin, dirigée par Cécile Capomacio. C'est en partenariat avec l'école Saint-Joseph-Lassalle et vous retrouverez votre serviteur au piano sur des tas de belles pièces qui vont effectivement de la musique baroque à nos jours, un très très beau répertoire. Venez donc nombreux, ça sera, je pense, un très beau moment musical. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt sur Point d'Orgue.